Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, lire, écouter, voir, qui a encore du temps de cerveau disponible? Ce lundi, c'est la journée internationale des podcasts qui met en avant ce nouveau mode d'écoute et de connaissance que les auditeurs de France Culture connaissent bien. Nous avons saisi cette occasion pour réfléchir à tous les supports internet qui nous mobilisent et de plateformes vidéo en portail audio tentent d'attirer notre attention. Car il existe une économie de l'attention que se disputent de nombreux opérateurs de l'internet ou de la télévision en tentant de nous faire demeurer le plus longtemps possible sur leur site ou sur leur chaîne. Nous allons tenter de comprendre ce soir avec nos trois invités comment cette attention est devenue un marché et comment nous pourrions nous en extraire pour lire, écouter et voir en toute liberté. Avec Bruno Patineau, il est directeur éditorial d'Arte France, doyen de l'école de journalistes de Sciences Po et auteur de La civilisation du poisson rouge chez Grasset, sous-titré Petit traité sur le marché de l'attention. Valérie Zenati est avec nous, elle est scénariste et écrivain, auteur entre autres de Jacob Jacob et plus récemment dans Le faisceau des vivants sur sa relation avec Aaron Appelfeld qu'elle traduisit en son temps et qui était un de ses plus grands amis, donc c'est publié aux éditions de L'Olivier. Christophe Bouton est également avec nous, il est philosophe, professeur à l'université de Bordeaux-Montaigne et auteur notamment en 2013 d'un livre un peu précurseur sur cette question, Le temps de l'urgence, aux éditions du Bordelot. Il a également co-dirigé en tant que philosophe en 2018, Temps de la nature, nature du temps, au CNRS.
5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République.
Les Français... Espion en pagaille et guerre froide sous François Mitterrand.
Cette victoire est d'abord...
Projet Orloff, la nouvelle fiction de France Culture en podcast original.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien.
C'est pour ça que j'ai bien hâte d'écouter le nouveau podcast de Binge Audio signé par Laëlia Véron. Abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée.
Bonjour, c'est Bruno Duvic et vous écoutez Poursuite, le tout nouveau podcast de la rédaction de France Inter.
Yves Saint-Laurent Beauté présente Désir, un podcast qui fait résonner les voix des femmes qui expriment leur audace, transgressent les codes et assouvissent leur désir.
Il y a 500 ans, le 20 septembre 1519, l'un des plus grands héros de l'humanité, Magellan.
Remember September 30th, International Podcast Day, a day-long celebration of the power of podcasts.
C'est parti pour l'aventure.
Voici quelques exemples des podcasts les plus récents. Bonsoir Christophe Bouton.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Valérie Zenati.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous Bruno Patineau.
Bonsoir.
C'est un peu votre livre qui nous a donné envie, en l'occasion de cette journée internationale des podcasts, de nous intéresser à ce temps de cerveau disponible, à ce temps de l'attention donc qui est très recherché par les GAFA, les grandes organisations d'outre-Atlantique qui travaillent sur l'Internet, que ce soit Google, Amazon, Facebook, Twitter ou tous les autres. La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. D'abord, c'est le bouquin d'un repenti.
En tout cas, c'est le livre de quelqu'un qui travaille et a beaucoup travaillé dans le numérique depuis 20 ans, 21 ans. J'ai effectivement travaillé dans cet univers-là. J'y travaille toujours en mettant du contenu disponible dans ces interfaces. Et disons qu'en deux mots, j'ai fait partie des gens qui ont été embarqués, qui ont cru et qui croient encore un peu dans les utopies numériques et qui se sont pas forcément rendu compte à un moment que quelque chose se passait. Et parce que sans doute nous avons cru à ce que la mise à disposition du contenu, la mise en relation des gens, le fait de créer un réseau créerait sans doute une sorte d'utopie. On parlait d'intelligence collective, de sagesse des foules, mais en fait ces interfaces, elles ont un modèle économique. Et donc elles ne sont pas neutres, elles ordonnancent l'ensemble des contenus qui nous sont mis à disposition. Et dans cet ordonnancement, elles recherchent à valoriser quelque chose qui est devenu très rare pour nous, c'est-à-dire notre temps.
Qu'est-ce qui s'est passé, puisque vous avez dirigé France Culture, entre le moment où vous étiez à France Culture et maintenant, pour que vous ayez, alors que vous nous disiez à ce moment-là, Bruno Patineau, ben c'est intéressant ce qui est en train de se passer sur le net, il faut y aller voir, c'est en train de naître, de se développer, ça vaut le coup d'investir même du temps personnel sur ces questions-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que justement tout ait changé en, mettons, 5, 6 ou 7 ans?
Mais en fait, est-ce que ça a vraiment changé? Ce qui s'est passé d'abord, je redis, la mutation de la société qu'on est en train de vivre, elle a lieu et elle aura lieu. Le changement d'usage, le fait qu'on puisse à un moment donné écouter des récits qui sont faits pour être écoutés au moment où on veut les écouter, avec une forme plus intimiste comme le podcast, de la vidéo au moment où on le veut, être interconnecté avec les gens, tout ça, ça a lieu et je ne crois pas du tout que ce soit ni négatif, ni qu'il faille s'en peiner. En revanche, ce qui s'est passé, c'est une observation simple, c'est que ces outils-là nous rendaient petit à petit dépendants d'eux-mêmes. Et ce phénomène d'assuétude personnelle et ce phénomène de polarisation sociale, j'ai essayé de le comprendre à un moment et la thèse que je défends dans ce petit livre, en tout cas les explications que je donne, c'est que cette assuétude, cette polarisation, ce ne sont pas des produits d'une technologie, mais des produits d'un modèle économique. Et que ce modèle économique, c'est celui qui a été adopté à un moment donné par certaines plateformes. Et c'est juste ça que j'étais en train de dire, c'est-à-dire d'alerter les gens sur quelque chose qu'ils ressentent tous, cette dépendance, et de donner un début d'explication à ces pathologies qui sont les nôtres.
Christophe Bouton, en 2013, vous écrivez donc « Le temps de l'urgence », qui d'ailleurs a des sources qui sont un peu semblables à celles que développe Bruno Patineau dans La civilisation du poisson rouge, en particulier le travail de Hartmut Rosa sur accélération, qui est donc sur cette réflexion sur l'accélération du temps dans notre société contemporaine. Mais vous le plongez également, Hartmut Rosa, dans un nombre énorme de références liées à la philosophie. Vous êtes philosophe. Cette civilisation de l'urgence, vous la sentez dans ces années 2010, quand vous commencez à y réfléchir et à publier ce livre?
Oui, tout à fait. C'est l'époque où est publié le livre d'Hartmut Rosa, qui est effectivement une prise de conscience importante de ce qui était en train de se passer. À l'époque, je parle surtout de l'usage des smartphones, de l'ordinateur, des emails, comme une nouvelle forme de dépendance ou de contrainte. On n'est pas encore complètement dans le marché de l'attention que Bruno Patineau évoque, mais qui vient ajouter à ce phénomène d'urgence. C'est vrai que j'ai réfléchi sur les causes de l'accélération à partir de Rosa, qui dit qu'il y a une accélération liée au capitalisme, à des raisons économiques, de recherche de productivité, de rentabilité. C'est ce qu'on voit dans l'orientation des GAFA vers ce marché de l'attention.
Avec un paradoxe, on a plus de temps libre qu'on en avait auparavant, mais on a l'impression d'être plus pris par notre travail, par nos obligations et par justement cette accélération du temps.
Tout à fait. C'est-à-dire que le temps qu'on récupère d'un côté par l'accélération technique, les voitures, les machines à laver, etc., on le repère de l'autre au sens où ce temps disponible devient un marché qui est utilisé pour permettre aux gens de consommer, d'aller voir des contenus justement sur Internet, etc. Donc on perd d'un côté ce qu'on gagne de l'autre. Ce qui me gênait un peu chez Rosa quand même, c'est dans sa thèse de l'accélération, il y a une sorte de fatalisme avec la thèse d'une fin de la politique. La politique serait dépassée et n'irait pas assez vite. Or, je pense qu'il y a moyen de légiférer malgré tout, de réhabiliter le politique pour modifier ses pratiques et intervenir sur, par exemple, ce marché de l'attention.
Valérie Zinati, vous êtes écrivain, vous êtes scénariste, vous êtes traductrice. Oui. Je le disais, d'Aaron Appelfeld, entre autres. Est-ce que vous souffrez de ce qui est décrit par Christophe Bouton, cette polychronie, c'est-à-dire, et c'est un peu ce que décrit aussi Bruno Patineau dans son livre La civilisation du poisson rouge, c'est-à-dire le temps saturé de tâches multiples, un temps qui est d'une certaine façon une unité de temps qui est encore plus chargée qu'elle ne l'était auparavant?
Alors le temps, je pense que c'est ma grande question, parce que lorsqu'on écrit, que ce soit des livres, des films, la matière même, c'est le temps. Comment incarner le temps à l'écran, comment entrer dans le temps d'un livre. J'ai la chance de vivre, d'être mon propre patron, si j'ose dire, donc de pouvoir faire des négociations syndicales et salariales avec moi-même régulièrement. En revanche, moi, ce que j'observe autour de moi, c'est la porosité incroyable qui existe aujourd'hui entre notamment le temps du travail et le temps intime, puisque aujourd'hui, dans énormément de secteurs, pas uniquement dans le cinéma, vous pouvez tout à fait recevoir des mails à 23h, à minuit, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, le week-end, qui vous rappellent qu'il y a une urgence, pour reprendre ce que disait Christophe Bouton. Et je crois que cette porosité entre les espaces intimes et professionnels est très stressante, très angoissante. J'ai lu aussi avec attention le chapitre consacré au travail dans le livre de Christophe Bouton. Et je pensais à cette directrice d'école qui s'est suicidée récemment.
Il faut dire que Christine Renon a écrit à sa hiérarchie, à ses collègues, oui. Directrice d'école à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Elle s'est suicidée le 21 septembre dernier. Et elle disait, la succession d'inspecteurs qui passent à Pantin ne se rend pas compte à quel point tout le monde est épuisé par le rythme,
oui.
Par les rythmes
elle dit que les parents... nous appliquons. Elle dit aussi que les parents veulent tout de suite. On reproche souvent ça à la jeune génération, mais là, ce sont les parents. Et donc, je crois que c'est la façon dont ce morcellement, cette diffraction du temps et ces urgences modèlent les relations aujourd'hui, à soi, à son intimité et à son espace public, qui demande une vraie réflexion.
Oui, cela, tout compte fait, c'est la modernité technique qui nous l'apporte. Même si vous critiquez Christophe Bouton, une vision de Paul Virilio, par exemple, il avait beaucoup travaillé sur cette question de la vitesse dans laquelle nous étions entrés. Donc, ça fait un certain temps qu'on réfléchit à ça. Et puis, on peut même citer Walter Benjamin et la reproduction mécanique à partir de la question de la photographie par rapport à la peinture, en l'occurrence. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, c'est de l'argent, toutes ces questions-là, Bruno Patineau.
En fait, comme l'a dit Christophe Bouton, le temps disponible, quand Rosa dit on a de plus en plus de temps et en fait on a de moins en moins de temps, on a le sentiment d'en avoir de moins en moins, il rappelle dans son livre à quel point au début du temps libre, il y a eu de l'inquiétude évoquée comme quoi on allait s'ennuyer. Mmh. Et qu'est-ce qui allait se passer? Il y allait avoir une sorte de... on allait verser dans l'alcoolisme ou ailleurs à cause du trop de temps disponible.
Il y a des ingénieurs qui ont remédié à cela en l'occurrence.
Mais ce qui s'est passé, c'est que le temps est devenu un marché ultra compétitif. Et donc finalement, le marché qui s'est développé va au-delà du temps qui a été mis à disposition. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer. C'est-à-dire que quand je parle d'exemples très simples, vous savez, l'incapacité de laisser son portable de côté, la fameuse nomophobie, le désir de le regarder même quand vous êtes en couple, entre amis ou en famille, le snobbing, enfin, toutes ces pathologies, en fin de compte, elles sont créées...
Le dormeur sentinelle, dites-vous.
Voilà, le dormeur sentinelle, celui comme moi, qui se réveille la nuit pour regarder son portable. Toutes ces pathologies, elles sont créées par des interfaces qui utilisent des données de neurosciences et qui les utilisent de façon ouverte. C'est pas du tout une thèse complotiste de dire, attention, ils le disent, ils le publient et ils l'expliquent parfaitement. Pourquoi?
Et vous dites que ça fabrique une société de toutes les fatigues.
Oui, parce que pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en gros, quand vous mettez à la queue leu-leu, si j'ose dire, tout le temps passé à faire plusieurs choses, vous arrivez à des journées qui ne font pas 24 heures, mais 31 heures, qui était le chiffre moyen calculé aux États-Unis. Ce qui veut dire que pendant 7 heures par jour, on fait plusieurs choses à la fois. Et faisant plusieurs choses à la fois, en fait, ce sont plusieurs interfaces qui rentrent en compétition pour vous capter du temps, alors même que vous êtes en train de faire autre chose. Et donc ça, c'est très fatigant. Juste une petite anecdote pour bien montrer. Moi, quand j'ai commencé à faire du numérique en 99, on nous disait toujours, quand il a été possible de faire des alertes par téléphone portable, ne faites pas plus d'une alerte par jour parce que sinon les gens vont se fatiguer et vont saturer. Qui d'entre nous aujourd'hui est à une alerte par jour?
Un événement important, la mort de Jacques Chirac par exemple, il y a quelques jours, vous dites, mais ensuite il y a eu les événements moins importants qui sont venus en alerte sur le téléphone.
Et même maintenant les alertes pour se dire qu'il ne se passe rien. C'est les alertes pour dire qu'il s'est passé ce qui était prévu, et puis les alertes pour dire qu'il ne s'est pas passé ce qui était prévu, et des alertes pour vous dire que rien n'est prévu. Et donc cette compétition permanente pour nous capter l'attention fait qu'on a des outils qui sont de plus en plus intrusifs dans notre temps, et c'est ça qui nous fatigue.
Christophe Bouton, ça rentre aussi avec la sécularisation du temps. Vous travaillez dans votre livre sur l'urgence, sur tout ce qui a été prouvé par David Landès ou d'autres historiens du temps, qui nous montrent comment l'individualisation du temps nous a conduit à être ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis la disparition du temps sacré aussi, d'une certaine façon. On sait que le temps est limité, que nos vies sont limitées, évidemment, et qu'il n'y aura peut-être pas, si on ne croit pas, de paradis ou de tout autre au-delà possible. Et donc, à partir de ce moment-là, on veut faire beaucoup de choses en même temps. Ça fait partie aussi de ce tropisme-là.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a la cause économique à ce temps de l'urgence. Il y a une cause culturelle aussi qui est le recul de la religion, de la croyance en un au-delà, l'idée qu'on n'a qu'une seule vie et que cette vie, il faut la vivre avec intensité. D'où ce que j'avais appelé la boulimie des possibles, c'est-à-dire la tentation de faire un maximum de choses en une seule vie, en même temps. Et du coup aussi le sentiment, la peur de rater, la peur de manquer. Ceci dit, J'ai trouvé cette idée d'une peur de manquer déjà évoquée chez Nietzsche en 1882, où il dit que l'homme moderne, qui est déjà l'homme de l'accélération, Nietzsche est un des premiers philosophes à thématiser cela, eh bien, il a comme principe faire n'importe quoi plutôt que rien, hein, avec la volonté de faire plusieurs choses à la fois, qui pour Nietzsche est compare ça à une corde qui risque d'étrangler la culture. Parce qu'il défend l'otium, l'écriture, la lecture, etc. Hein, donc c'est quelque chose qui monte en puissance dans la modernité et qu'Internet, je dirais, a techniquement décuplé.
Valérie Zenati.
Oui, alors moi il me semble que avoir envie de vivre intensément et de faire le maximum de choses, c'est le propre du moteur aussi, hein, vital. Il faut, ce n'est pas négatif de vouloir éprouver des sensations fortes et vivre le maximum de choses dans le temps qui nous est imparti. Peut-être, moi je me souviens avoir fait enfant, bien avant les réseaux sociaux, le calcul des livres que je pourrais lire dans une vie.
Ah oui.
Donc j'avais 10 ans et j'ai dit bon, si je lis un livre par jour pendant 70 ans, j'arriverai à combien? Et le chiffre m'avait découragée parce que c'était un peu plus de 20 000 livres. Je me disais, mais il y a des livres qui sortent tous les jours et puis il y a tous ceux qui sont sortis, ceux qui ne sont pas traduits. Et j'étais déjà affolée. Donc cet affolement pouvait exister bien avant les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, le système des alertes, même des abonnements au podcast, vous rappelle aussi tout ce que vous ne pouvez pas faire et ne faites pas. Moi, j'aime beaucoup le podcast, mais je n'ai pas d'abonnement parce que lorsque je ne peux pas écouter les émissions, je n'ai pas envie qu'on me rappelle ce que je peux pas ne pas faire.
Avec la mise en place, effectivement, comme vous l'expliquez, Bruno Patino, dans votre livre, de circuits de récompense, c'est ce qu'explique le neurologue Jean-Philippe Lachaud.
Si vous êtes au clair sur ce que vous cherchez à faire, à chaque instant, je sais exactement ce que je dois faire, je vais être bien concentré. C'est ce circuit qui va dominer. Au contraire, si c'est le circuit de récompense, par exemple, qui domine, là, problème, je vais me retrouver assez vite comme un petit garçon dans un grand magasin avec plein de bonbons. Et le problème, c'est quand le magasin de bonbons est infini et tous les bonbons sont gratuits. Et ça, c'est ce qui se passe de plus en plus avec tous nos petits téléphones, Internet, etc., qui vont nous bombarder sans arrêt de petits bonbons hyper efficaces pour stimuler le circuit de récompense. Et là, le réflexe, c'est que mon circuit de récompense, il va me pousser à fourrer un maximum de bonbons dans ma bouche. On est dans une gloutonnerie attentionnelle. Alors vous me direz, ouais, ok, mais on a bien le droit de se distraire. Certes, ok, très bien. Sauf que sachez quand même que le mot distraire a la même étymologie que le mot déchirer en latin. L'attention, elle est distraite, mais elle est séparée, elle est tirée entre plusieurs objets.
Ça déchire donc effectivement toutes ces propositions, Bruno Patino.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les interfaces qui sont utilisées par un grand nombre de réseaux sociaux, d'applications de jeux, voire même d'applications de rencontres, justement, c'est toute cette théorie de la récompense qui est utilisée. Et alors, la récompense, surtout la récompense aléatoire.
J'ai appris, oui, effectivement, en vous lisant que pour les sites de rencontres, eh bien, on vous propose toujours des gens qui sont de plus en plus proches de votre personnalité supposée par les algorithmes. Et puis en fait, on vous en propose de temps en temps qui sont tellement éloignés que ça vous donne l'impression de pouvoir véritablement choisir.
Oui, parce que ce qui a été dit ici, ce qui est très important, c'est que dans le mécanisme de récompense, celui qui est le plus addictif, si je puis me permettre, c'est le mécanisme de récompense aléatoire. C'est-à-dire, c'est une machine à sous, en clair. Quand vous gagnez de temps en temps vous perdez, vous gagnez beaucoup.
Croire qu'on a de la chance.
Et vous avez de la chance, etc. Ça vous rend addict, en fait. C'est-à-dire que quand la récompense est aléatoire et incertaine, vous ne pouvez pas vous passer de jouer. C'est ce qui se passe avec les machines à sous et c'est ce qui se passe avec un grand nombre d'applications. Et pour les sites de rencontres, on aurait pu penser que le développement des données, le développement algorithmique faisait que tel un artilleur, le site allait être de plus en plus précis. Mais s'il est de plus en plus précis, vous allez passer de moins en moins de temps, puisqu'il va vous satisfaire de façon immédiate. Mmh. Et donc l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est de vous faire passer le plus de temps possible sur ce site-là. Et donc la récompense est aléatoire, faire que de temps en temps vous gagnez, si j'ose dire. De temps en temps vous perdez. De temps en temps c'est très proche de ce que vous souhaitez. De temps en temps c'est très éloigné. Eh bien ça va développer ce mécanisme de récompense qui est cité. Et donc ça va vous rendre de plus en plus addict. Vous allez le regarder de façon compulsive, en oubliant même l'objet du site en question.
Valérie Zenati.
J'ai une question. Quel intérêt économique un site de rencontre a-t-il à ce que vous passiez plus ou moins de temps ?
C'est pas le site de rencontre en lui-même, c'est son modèle économique. Si, je dis toujours, pour aller au-delà du site de rencontre, si Facebook avait eu un modèle payant, par exemple, par abonnement, ce qui n'était pas le cas, puisque pour que le réseau soit optimal, il faut limiter les frottements et donc il y a un intérêt gratuit.
Et nous resterons toujours gratuits,
dit la page d'ouverture. Mais si le réseau social avait été payant, croyez-moi, il ne serait pas du tout architecturé ni construit de cette même façon. C'est-à-dire que la timeline, le newsfeed tel qu'on l'appelle, ne serait pas du tout structuré de cette même façon. Il essaierait d'aller au plus près de ce qu'il pense devoir vous satisfaire. C'est pas du tout le cas. Le modèle publicitaire implique que vous passiez le plus de temps possible sur ces réseaux-là. Et donc, le plus de temps possible, c'est de vous rendre le plus addict possible.
Mal à la tête, au cerveau, les images nous rendent idiots. On était bien mieux avant.
On était bien mieux avant.
À courir tout nu dans les champs.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat consacré à cette question du temps de cerveau disponible, de l'économie de l'attention, avec Bruno Patineau, auteur de La civilisation du poisson rouge, avec Valérie Zenati, scénariste et écrivain, auteur entre autres de Jacob Jacob ou encore de Dans le faisceau des vivants, qui raconte ses rencontres avec celui qu'elle a traduit, c'est-à-dire Aaron Appelfeld, c'est aux éditions L'Olivier, et avec Christophe Bouton. Alors Christophe Bouton, vous avez travaillé sur ce temps de l'urgence en 2013 pour ce livre aux éditions du Bordelot. Vous êtes philosophe, cette frustration qui était décrite par Valérie Zenati, ça fait partie aussi de cette critique qu'on pourrait faire à cette modernité qui nous met toujours des appâts devant nous et que l'on ne peut pas toujours satisfaire.
Oui, il y a tellement de choses disponibles qu'on finit par sentir une sorte de limite, de finitude, d'impuissance et qui peut créer cette frustration, effectivement. C'est lié au problème des podcasts aussi. C'est-à-dire que les podcasts, c'est une excellente chose. Ça permet de ne pas avoir à regarder tout de suite ou à écouter tout de suite une émission ou pour les replays à la regarder tout de suite. Il y a une certaine liberté. Mais le problème, c'est que la quantité accumulée est telle
des millions,
que...
Des millions d'heures.
Une fois qu'on se retrouve face à cette quantité, on ne sait pas que choisir et finalement...
On a des algorithmes qui nous permettent de le choisir.
C'est aussi vrai. Ça. On a des orientations, mais malgré tout, on a l'impression que on manque énormément de choses. Donc, ça joue à double tranchant, et c'est une bonne chose, mais qui est difficile à gérer.
Autrefois, Valérie Zenati, on avait une deadline, par exemple, dans les journaux. Ça faisait partie. D'ailleurs, c'était un joli terme, la ligne de mort, oui. La deadline pour pouvoir savoir quand on allait boucler, par exemple. Et puis ensuite, on s'arrêtait. Aujourd'hui, plus aucun organe de presse n'a de deadline puisqu'on produit tous les jours, tout le temps, toute la nuit, toute la journée et ça ne s'arrête jamais. Ça fait partie aussi justement de ce temps qui s'étire.
Oui, et je pense que la solution peut-être, c'est justement dans une sorte d'hygiène temporelle,
individuelle. Vous y croyez vraiment ?
Oui, ah oui, j'y crois. Non seulement j'y crois, mais je la pratique et je l'ai éprouvé. Je peux faire partie des gens qui regardent leur téléphone portable quand ils sont avec leurs enfants et je sais que ce n'est pas bien. Mais on peut s'appliquer des règles et surtout, je crois que les grands bouleversements de la vie comme la mort, l'amour, la naissance d'un enfant sont des bouleversements du temps et de notre rapport au temps qui peuvent aussi nous guider vers un temps plus profond, moins fragmenté. Et il faut être à l'écoute de ça. Vous avez évoqué Aaron Appelfeld. Je veux juste dire que je suis toujours la traductrice d'Aaron Appelfeld, puisqu'il y a encore 30 livres de lui à traduire. Oui, tout à fait. Et je signale juste ça parce que, justement, l'écrivain a un rapport au temps qui dépasse, bien sûr, la fragmentation et même le temps de sa mort. Et en le traduisant...
Aura-t-on le temps de les lire ? Vous aurez le temps de les traduire, peut-être ?
J'y suis actuellement.
Bruno Patineau, justement, ces solutions, vous les évoquez, vous dites il y a quatre combats, il faut combattre les idées fausses, imposer une négociation sur les normes d'application des algorithmes qui tentent de capter notre attention, vous dites il faut réfléchir au cadre juridique des plateformes, vous dites il faut développer des offres numériques qui ne répondent pas à cette économie de l'attention, tout ça, ça fait partie effectivement de bonnes résolutions qu'on pourrait mettre en œuvre, mais on sait très bien aussi que tout ce qui a été construit, c'est justement pour nous obliger à y aller et parce qu'on aime ça aussi au bout du compte.
Non, mais bien sûr qu'on aime ça. Bien sûr qu'on sait, pour reprendre la métaphore du poisson rouge, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans le bocal. C'est une évidence. Moi, je pense deux choses par rapport à ça. Vous avez dit, j'évoque des solutions. Il y a effectivement un chapitre qui s'appelle « Combattre et guérir » parce que je pense qu'il y a une notion de guérison qui est importante et pas seulement une notion de combat.
Vous dites, il y a quatre ordonnances.
Des ordonnances, en tout cas, j'essaye.
Docteur Bruno Patineau.
Non, plutôt malade Bruno Patineau qui se demande comment guérir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... on a parlé de... La connexion a été un luxe pendant un moment donné, c'est la déconnexion qui le devient. C'est-à-dire qu'encore une fois, redevenir maître de son temps, avoir des médias à un moment donné qui donnent du temps aux gens qui les regardent, est devenu un enjeu très important. J'écoutais Valérie Zenati, je ne crois pas du tout que ce qu'elle dit soit naïf. Je pense que c'est nous qui sommes d'une certaine façon naïfs à penser qu'on peut être connecté en permanence, sans conséquence, à la fois pour notre vie personnelle et pour notre vie collective. Et que socialement, industriellement, on a tous vu ça comme quelque chose d'une libération extraordinaire et qu'on n'a pas vu que ça nous rendait, encore une fois, plutôt dépendants, encore une fois, d'un certain modèle économique. Et je crois, pardon, j'ose dire que je pense qu'on peut effectivement limiter à un moment donné l'application de ce modèle économique. On parle souvent des médias classiques. Tous les médias classiques sont régulés d'une certaine façon ou d'une autre. On ne leur permet pas de faire tout à tout moment. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une demande sociale. En tout cas, l'accueil que moi je ressens autour de mon livre me fait croire qu'il y a une demande sociale importante pour devenir à nouveau maître de son temps.
Vous ne croyez pas, d'une certaine façon, Christophe Bouton, dans votre livre sur l'urgence, le temps de l'urgence, à ce slow time que certains veulent nous vendre, d'une certaine façon, en disant on va ralentir, on va y arriver, comme pour la slow food, par exemple, le contraire de la fast food. Du fast food, vous dites, il y a un petit côté supercherie dans ce slow time parce que, en fait, on est tellement pris qu'on n'arrivera pas à s'en sortir au bout du compte. Tout est en place. On ne sera jamais des Oblomovs que vous prenez comme héros potentiel, celui qui est dans son canapé ou sur son lit et qui réfléchit, qui ne fait rien d'autre que de manger et de réfléchir.
Oui, Oblomov, c'est un contre-modèle pour tordre bâton dans l'autre sens. Je ne pense pas qu'il faille devenir des
non, Oblomov. Non, d'ailleurs, ça se termine mal pour lui. Oui, mal. Voilà.
Je pense que le slow time, il y a différentes tendances. Il y a une tendance qui est récupérée par le marché. Il y a du slow design, du slow tourisme. J'avais été une fois, j'étais passé devant la foire de Paris qui vendait du slow à grande échelle. Bon, là, c'est un petit peu la supercherie. En revanche, il y a de la slow éducation, par exemple, qui consiste à ne pas surcharger les emplois du temps des élèves. Donc, il y a des choses un peu plus sérieuses. Il faut distinguer. Et puis, je pense que le problème du slow aussi, c'est que on va dire, c'est à l'individu de changer. C'est lui qui s'est mis dans une mauvaise situation. Il faut qu'il change ses habitudes, qu'il fasse un effort sur lui-même. C'est vrai, mais...
Il y a des conditions sociales.
Il y a des conditions sociales. Et moi, à la fin de mon livre, parce que bon, la critique est aisée, mais l'art est difficile, alors je me suis dit, tiens, je veux évoquer quand même un certain nombre de solutions possibles. Et j'avais regardé des travaux de droit du travail, je m'étais vraiment éloigné de mon domaine d'origine, et des auteurs parlaient d'une nécessité de créer un droit à la déconnexion. Et j'en parlais autour de moi, à des gens, pas forcément d'université, etc., qui disaient « oui, mais c'est utopique, ça marchera jamais, etc. » 3 ans après, alors on a beaucoup critiqué la loi M. Khomri, bon, qui a ses défauts, mais le droit à la déconnexion a été inscrit noir sur blanc dans le droit du travail. Donc, pour ceux qui ont une connexion contrainte avec des emails, comme vous l'évoquiez le vendredi soir, avec réponse le lundi, des emails pendant les vacances, etc., déjà, ça a quand même mis un cadre, une protection qui peut ensuite favoriser des attitudes individuelles. Donc, je pense que le droit, la politique, la régulation, effectivement, a son rôle à jouer. Et donc, il ne faut pas trop, c'est ce que je reprochais à Rosa, déclarer la fin de la politique.
Mais tout de même, Valérie Zenati, il ne faut pas non plus, disons, tellement critiquer cette offre pléthorique qui nous est donnée, puisque on a accès au fond de l'INA, on a accès au fond de Gallica, ce merveilleux site de la Bibliothèque nationale de France. On peut aller sur Retro News pour voir tous les journaux anciens sur un sujet qui nous intéresse et y bagnauder, s'y perdre aussi. Il y a aussi cette dimension aussi de perte. De perte de temps, d'ailleurs, en regardant ces choses-là, et peut-être de trouver l'inspiration, un personnage, quelque chose qui vous intéresse, Valérie Zenati.
Bien sûr. D'ailleurs, Internet est de plus en plus présent dans les livres, chez les romanciers, chez Welbeck, chez Annie Arnaud. On sent que c'est un outil fascinant. Moi, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, en effet, il y a eu un émerveillement. Vous parlez de... Bruno Patino parlait de l'utopie des nouvelles technologies. Il y a eu un émerveillement au début d'Internet. Internet. La première personne à m'avoir parlé de Google, c'était un professeur de philosophie en fac qui m'a dit, il y a un outil extraordinaire qui s'appelle Google.
Et avant, il y avait AltaVista.
Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, moi, je pense que cet accès est évidemment une chose extrêmement positive. On peut, de chez soi, avoir accès à beaucoup de choses. Que la communication aussi. Aujourd'hui, au Proche-Orient notamment, où il n'y a que des frontières, il y a des gens qui peuvent se parler d'un pays à l'autre. Des Israéliens peuvent parler avec des Syriens via Internet. Et donc, il y a quelque chose qui reste très très beau et auquel on tient. Il me semble aussi que ce qui est intéressant dans le livre de Bruno Patino, c'est toute cette élite de la Silicon Valley qui met ses enfants dans des écoles où on les tient à l'écart des très jeunes, des iPhones, des réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y a certainement une éducation pour profiter de cette matière riche sans trop se perdre ou sans devenir esclave, tout simplement.
Bruno Patino.
En fait, c'est pas contradictoire ce que vous dites, c'est-à-dire que les trois utopies fondatrices en fait de l'internet, à savoir la bibliothèque d'Alexandrie, tout le contenu disponible, la noosphère de Teilhard de Chardin, l'intelligence collective, la conscience universelle,
c'est au cœur de la Déclaration internationale du cyberespace
de 96, ouais, et le village mondial McLuhanien, tout le monde communique avec tout le monde, tout ça est toujours là. Et encore une fois, ça donne toutes ces choses-là, y compris ce que vous dites flâner. Hein, il y a un chiffre qui est paru récemment. Les gens prennent 17 minutes par jour à faire leur choix sur Netflix, par exemple. C'est-à-dire même dans cet outil piloté par les algorithmes, on bagnode quand même pour essayer de trouver. Donc c'est pas évidemment qu'il y a tout ça. Il faut bien voir que c'est l'ordonnancement de cette offre, c'est les interfaces de cette offre. On a tous.
C'est le jeu sur les émotions aussi.
Oui, c'est-à-dire en gros. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Quand les contenus étaient rares, le pouvoir était dans la distribution. Maintenant qu'ils sont universellement disponibles, le pouvoir est passé à ceux qui vous les font découvrir. Et on peut imaginer plein de modèles pour faire découvrir les choses. La recommandation humaine, la recommandation algorithmique, mais qu'effectivement, quand l'économie s'invite là, c'est-à-dire quand la valeur de la découverte, finalement, c'est la valeur du temps que vous arrivez à capter, à celui qui vous utilise, alors là, l'ordonnancement n'est pas le même. C'est-à-dire que j'ai essayé de démontrer un moment, il y avait eu un article du Wall Street Journal qui montrait que, en gros, l'ordonnancement des contenus sur YouTube vous enferme dans vos désirs propres, mais en plus les extrémise petit à petit pour vous garder captif. Donc la mise à disposition...
Avec une vidéo sur Facebook ou sur YouTube qu'on commence à regarder pendant 4 ou 5 secondes et puis ensuite on passe à autre chose. Parce que aussi cette accélération...
Bien sûr, mais vous passez à autre chose qui va augmenter la dose. Et donc en fait, si vous voulez, c'est pas la mise à disposition générale ni l'interconnexion qui pose problème. C'est le modèle économique de la découverte.
Avec aussi cette dimension émotionnelle que décrit Bruno Patino, c'est-à-dire qu'en fait on nous prend par les émotions et ensuite on veut nous garder, c'est-à-dire c'est vraiment l'emotional triggering qui est au cœur de ces affaires-là, Christophe Bouton.
Oui, effectivement, il y a une captologie, pour reprendre l'expression de Bruno Patino.
J'aurais appris captologie, et puis de votre part, j'avais aussi appris polychronie, que je trouvais aussi joli.
Ah oui, la polychronie qui est le fait de faire plusieurs choses en même temps. Et d'ailleurs, c'est lié parce que quand on est dans un écran... sur ces pages, sur ces sites, c'est vrai que en fait le cerveau est habitué à suivre plusieurs choses en même temps. Vous lisez un article de journal qui est gratuit, en échange vous avez une série de petites vidéos qui sont des publicités ciblées et votre cerveau s'habitue à faire plusieurs choses en même temps, d'où le problème de concentration. Maintenant, je suis content que vous ayez parlé de Gallica parce que le web se dit en plusieurs sens, à plusieurs visages. Vous avez le web du marché de l'attention, qui est effectivement très présent de par ce modèle économique. Il y a aussi le web en plus des fake news, et là c'est plus le poisson rouge, je dirais, c'est le monstre du Loch Ness quand c'est le symbole. Hein. Et puis vous avez le web, je dirais, la bibliothèque de Babel, avec tous les textes dans toutes les langues, que je trouve extrêmement important, qui existe aussi, qui n'a pas de cookies, qui est une vraie gratuité et qui fait pas appel à ce jeu des émotions. Donc moi j'insisterai aussi sur cette dimension-là, qui est un potentiel énorme d'Internet.
Vous disiez tout à l'heure, Valérie Zenati, de plus en plus Internet est présent dans les romans, dans les écritures contemporaines, mais c'est vrai aussi du théâtre, c'est vrai aussi du SMS qui est entré désormais dans l'écriture des films, puisqu'on voit désormais des héros qui discutent entre eux par SMS en même temps qu'ils font autre chose. Donc on voit effectivement que ce monde contemporain, cette simultanéité, peut servir aussi la scénariste que vous êtes. J'imagine qu'on peut écrire de façon différente avec ces outils-là qu'on ne le faisait auparavant.
Oui, moi j'ai commencé à être scénariste alors que les outils étaient déjà là, donc j'ai pas vraiment la possibilité de comparer. Mais encore une fois, c'est une source et une matière très intéressante et qui est accessible. Voilà, une accessibilité qui facilite la tâche. Je pense encore une fois que la question n'est pas celle de la matière qui nous est proposée, mais de la façon dont on se laisse ou pas, dont on laisse ou pas modeler son temps par justement tout ce qui est évoqué ici, les algorithmes, les alertes.
Mais on parlait tout à l'heure.
Mais moi, je rêve d'une installation d'art contemporain qui donnerait à ressentir en 5 minutes. Tout ce vers quoi peut ouvrir un téléphone portable. C'est-à-dire les textos qui arrivent, qui partent, les mails, les alertes, et où de manière sonore et visuelle, on verrait ce qui peut se passer en 5 minutes, effectivement, dans la vie d'un jeune ou d'un moins jeune. Et là, on viendrait à ce que disait Bruno Pettino tout à l'heure, on découvrirait qu'on vit des journées de 31 heures et pas 24.
Bruno Pettino.
Oui, non, mais je pense que si vous voulez... C'est intéressant tout ça parce que l'univers est dans un téléphone portable aujourd'hui et donc il y a une compétition très forte. Mais là où je rejoins totalement Christophe Bouton, c'est qu'encore une fois, il y a plusieurs internets.
Donc celui dont même des internets, d'une certaine façon, on appelle ça un réseau social, mais il y a des niveaux sociaux, c'est-à-dire le surmenage des intellectuels et des privilégiés n'est pas le même, le surmenage de Bruno Pettino, que le surmenage de une fille de 15 ans aujourd'hui avec son smartphone.
Oui, mais encore une fois, je pense que l'enjeu aujourd'hui, il est déjà parce que là où je rejoins Christophe Bouton, c'est que toute cette question n'est pas une question de discipline individuelle. C'est une question vraiment de demande sociale et collective en général, qui rentre dans les champs d'éducation, les champs politiques ou autres, pour encore une fois modérer cette application de l'économie de l'attention. Parce que on en parle, mais malgré tout, les effets d'assuétude que ça développe chez les plus jeunes, par ce mécanisme de récompense en permanence, il est effectivement nocif. Et il a des conséquences effectives. Je voyais, quand vous avez annoncé l'émission sur les réseaux sociaux, pour capter l'attention de vos auditeurs, J'ai vu que certains auditeurs ont dit, vous voyez bien, déjà la lecture diminue, le temps de lecture diminue aujourd'hui chez les plus jeunes qui sont sursollicités en permanence par les réseaux. Et donc je pense que cet enjeu collectif, il est là.
Christophe Bouton, pour terminer sur cette question, Bruno Pettino parle de la fatigue de prendre une décision. C'est-à-dire que tout compte fait, ces outils nous servent aussi à nous soulager d'avoir à prendre une décision parfois, c'est-à-dire que les algorithmes prennent la décision pour nous. C'est une nouveauté, ça, non?
Oui, et en même temps, ça me rappelle à nouveau Nietzsche, qui disait que l'homme pressé manifeste en fait une forme de paresse, parce que il ne va pas puiser ses pensées à la source, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de la décision. Donc effectivement, ça va dans votre sens. Le temps de l'urgence est aussi un temps de, finalement, on refuse la décision. En tout cas, ça ne favorise pas cet exercice.
Un dernier mot, Valérie Zenati.
Moi, il me semble tout de même qu'on peut encourager la liberté individuelle aussi, par rapport au choix à faire ou pas. Et concernant la lecture, en effet, il y a aujourd'hui moins de temps pour la lecture a priori, mais partout en France se développent notamment les lectures publiques, musicales, où affluent les gens. Et je pense qu'il faut revenir aussi au sensoriel, c'est-à-dire que peut-être que la littérature va aussi passer par l'oralité, ou revenir à l'oralité d'où elle est issue, et la rencontre, et la musicalité et l'expérience sensorielle.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous Bruno Pettino, La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention chez Grasset. Pour votre part Christophe Bouton, Le temps de l'urgence est au bord de l'eau. Et puis le dernier livre de Valérie Zenati, c'est Dans le faisceau des vivants. Et puis, il vous reste du temps, vous pourrez lire la revue papier qui vient tout juste de sortir, qui se pose la question de soigner l'âme humaine. Et ça fait partie de cette discussion que nous avons eue toute cette soirée, donc dans le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André à la technique aujourd'hui, Jacques Hubert, à la vidéo Morgane Danan, à la réalisation Marie-Laure Ciboulet.